Merci. Merci de cet auditoire et avec, en ce qui me concerne, comment dirais-je, une prise de conscience depuis des années sur le fait que le monde est en train de changer et que ce qu'on pose aujourd'hui comme étant une innovation forte, la filière bois l'a engagée, pas seulement aujourd'hui, mais hier. Et que ce qui est très important pour nous, on a ici un auditoire franco-suisse et même canadien, merci aux Canadiens d'être là, c'est que on oublie souvent que, au moins pour ce qui est de l'Europe occidentale sud, on a eu deux grands creusets de filière bois sur les 2 ou 3 décennies qui viennent de se passer. Mais il y a eu effectivement l'Aquitaine. Et puis il y a eu quoi? Il y a eu tout cet arc lémanique où on est tous allés chercher, il y a bien nombre d'années, la compétence qui se développait en Suisse avec le bois, et je pense à l'EPFL entre autres. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'avec avec le recul du temps, on s'aperçoit que la Suisse a largement été un maître à penser dans le schéma. Et ça me paraît nécessaire et important de le rappeler. Et ce qui est important aussi, c'est que Woodrise, dont Patrick vient largement de parler, c'est que c'est la première fois où on a compris quand même que cet élargissement que nous faisions déjà entre France voisine et Suisse, que cet élargissement, il était nécessaire. Pourquoi? Parce que, et il y a beaucoup de jeunes ici, et tant mieux, pourquoi? C'est parce que ça avance très vite et que le débat aujourd'hui de ce qu'on est capable de faire, ce que mettait 10 ans à faire, aujourd'hui on met 5 ans, voire moins. Donc il y a ce débat qui est monté en exergue. Et on est assez heureux d'en parler, et ça a été une des naissances de Woodrise. C'est le fait de se rendre compte que sur le plan international, quels que soient les pays occidentaux qui disposaient de bois, on a vu revenir le bois en hauteur, en ville, et que il nous est apparu extrêmement important qu'on échange sur les technologies. Pourquoi? Parce que c'est lourd et ça coûte cher de repartir d'une page blanche à chaque fois, et qu'en fait c'est extrêmement riche. On l'a fait avec le Canada. Nous étions un certain nombre dès les années 2000 en visite, mais parce que de faire des échanges qui nous permettent de recueillir les informations de chacun, c'est extrêmement vif. Je laissais cette image uniquement, c'est parce que ça, pour moi, ça me paraît symbolique mais important. C'est que l'arbre a une force extraordinaire, capable de pousser sur n'importe quoi. Certes, ça, c'est une image holistique, mais on est vraiment là dans un débat où, avec la Suisse, beaucoup de choses se sont faites. Donc, mon propos, c'est très rapidement de faire un survol. Je vais le diviser en trois. Parce que je viens de le dire, sur cette Suisse, il s'est fait beaucoup de choses. Il y a eu un creuset en particulier sur l'axe Genève-Lausanne qui a démarré il y a maintenant une vingtaine d'années. Il y a des leaders ici de la réflexion de la construction bois. Et puis, je ne peux pas ne pas comment dirais-je, attirer votre attention sur le fait qu'il y a aussi un changement comportemental fort, à savoir que les strates de la conception d'un ouvrage entre les architectes, les ingénieurs, etc. Ici, le débat a été donné très tôt sur la modification qui devait y avoir au travers du bois dans la relation entre l'architecte, l'ingénieur, où on a beaucoup plus assisté à des travaux d'équipe qu'à des travaux de sectorialisés. Et le bois étant en plus, ne l'oublions pas, non seulement un travail structurel, mais un travail d'enveloppe, et que dans le bois, il y a tout son aménagement. Dans un bâtiment bois, il y a tout son aménagement. Quelques avis. Je ne peux pas non plus, ce n'est pas une question de réciprocité, mais on ne peut pas oublier ici des gens comme Thomas Buchy qui, depuis près de 20 ans, ont été des pionniers à travailler sur la technologie. Cet immeuble-là, qui était déjà les prémices de ce que pouvait être en ville la construction bois, c'était une structure mixte en bois et béton. Aujourd'hui, cet immeuble vit sa vie sans problème particulier, et c'est un des exemples forts. au fur et à mesure des mois, des années, on voit sur le bassin lémanique les ouvrages se développer. Avec beaucoup d'aspects dont on a parlé ces 48 heures, mais beaucoup d'aspects qui traitent des économies d'énergie, qui traitent de la façon d'habiter autrement, etc. Et ce qui est important à voir, c'est qu'ici, sur Genève, Woodrise n'a pas été attendu. Woodrise était déjà là, d'où l'avancée rapide qui a permis de faire que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Il y a les instances du type Lignum qui sont des instances fortes. Il ne faut pas oublier non plus le travail que fait le CEDOTEC de façon à aider, promouvoir et faire que l'information circule. C'est pour ça que quand on parle maintenant de le faire avec des outils comme Woodrise sur l'international, je pense que la Suisse a tout ce qu'il faut. Et merci à Claude Aigui d'avoir accepté qu'on aille ensemble à Bordeaux il y a maintenant deux ans, pour développer tout cela. Et on voit simplement que les années défilent au fur et à mesure des images que vous avez devant vous, mais on voit que les réalisations sont là et que il y a aussi un changement de mentalité de la part des maîtres d'ouvrage qui font que le bois, l'approche constructive des systèmes potentiellement utilisables a changé ou change. Et puis, y compris dans des zones urbaines fortes, le bois peut avoir des places. Alors, on est bien dans l'ensemble Woodrise clair dans nos propos. On n'est pas là pour, entre guillemets, promouvoir ou vendre des immeubles de 15 étages, mais simplement que ça soit en réhabilitation, il ne faut pas l'oublier, que ça soit en surélévation, que ça soit en restructuration de façade, le bois peut avoir des places extrêmement intéressantes et ça va très, très loin. On voit aujourd'hui l'approche de la végétation sur des structures de façade. On voit véritablement des réponses nouvelles. On est vraiment sur des choses en cours où on mesure aussi la capacité qu'a le bois de répondre non seulement à des choses de longue durée, mais éventuellement de résoudre des choses à court délai. Ces bâtiments, il suffit d'aller à la Place des Nations pour voir aujourd'hui où ils en sont. On est là dans des débats qui sont extrêmement larges, extrêmement intéressants, parce que ce n'est pas le bois pour le bois. Mais là, par exemple, dans ce bâtiment, la structure primaire est porteuse, est une structure en pisé et sur laquelle le bois était indissociable. D'ailleurs, ce bâtiment a été primé. L'apport qu'amène le bois sur les planchers, sur les façades, est un élément novateur qui a permis aussi des réalisations. N'oublions pas que le bois a pour lui une richesse importante, c'est d'une part sa proximité, mais je ne vais pas rentrer moi là dans le débat des approvisionnements, etc. C'est un autre propos, mais ça veut simplement dire qu'on a des ressources potentielles importantes. On a fait une parenthèse sur la Bourgogne proche. Pourquoi ? Parce que on voit que là aussi ça bouge très vite et que ce qui était impensable il y a 3 ans est déjà là. Et que on a là, par exemple, des approches nouvelles de promoteurs qui ont en charge des programmes, initiateurs de programmes, dans lesquels, par exemple, mêler à la fois ce qui est l'existant du terrain, à savoir l'automobile, dont il faut savoir quoi faire et que faire et en positionnement, et de mêler, ça aussi c'est une des caractéristiques du bois qu'on retrouve à Paris ou ailleurs, sur lequel on a maintenant naissance de bâtiments mixtes dans lesquels un certain nombre de fonctions sont développées. Et voilà des projets qui sont juste en sortie de terre. Et il faut saluer quand même le courage des maîtres d'ouvrage de prendre ces décisions à mon aval qui conduisent à ces réalisations. Et ce qui est important, Claude Aigui le rappelait tout à l'heure, on a vu hier que les financiers, le monde de l'argent qui malheureusement ou heureusement, je ne sais plus ou pas, commande le développement de notre filière, est très intéressé par les potentialités du bois. Quand on voit que des choix de représentation d'organismes financiers comme une caisse d'épargne en Bourgogne font le choix direct d'aller sur des ouvrages de cette nature. Continuons, parce que j'ai parlé de la Suisse. Il fallait quand même que moi, en tant que Français, je remercie un petit peu nos amis suisses de tout ce qui est fait depuis des années. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin non plus pour voir qu'il suffit de quelques dizaines de kilomètres pour voir que, peut-être pas encore les grands immeubles, mais il y a des choses qui sont en cours de gestation et dont on pourra avec plaisir parler dans un an ou dans deux ans. Le pays de Gex en particulier, des villes comme Annemasse, Thonon sont en plein développement avec la filière bois. Mais là, par exemple, voilà des ensembles importants qui ont été faits. C'est récent. Il faut se rappeler que cette région sud de l'arc lémanique, côté France, le premier lycée bois de France a été fait à Rumilly en 1995. Donc on a aussi, et il faut bien se le dire, un recul qualitatif du bois. On parle beaucoup du bois comme ayant été mis de côté. N'oublions pas quand même que nombre de nos villes, françaises entre autres, mais suisses aussi, ont dans leur cœur, le cœur de ville, des bâtiments anciens dans lesquels les structures sont en bois. Paris, pour une part de Paris, il y a encore des structures bois habillées de pierre. Sous Haussmann, on construisait beaucoup avec des structures bois. Donc, une approche aussi extrêmement intéressante, parce qu'on est à cette frontière dans laquelle l'usager, la personne est prise en compte. Et ce n'est pas si neutre que ça de créer des outils de vie. N'oublions pas que ce sont des outils de vie, du logement ou du tertiaire, mais d'avoir des établissements d'enseignement dans lesquels le bois est très présent. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir cette symbiose qu'il y a entre l'architecte, l'ingénieur et la filière elle-même pour avoir des projets, parce que tout se pose dans ce type d'ouvrage, à savoir les approvisionnements, etc. Gymnase ou autre construction complémentaire, là aussi le bois peut être extrêmement présent. Et puis ça va loin maintenant, parce que on se rend compte de la puissance de l'arc alpin, qu'il soit français ou suisse ou de plus loin. Vous avez une exposition Triple Wood qui est associée, dont c'est la première présentation européenne ici que vous pourrez voir a posteriori. Mais on s'aperçoit quand même, enfin on sait qu'on a très largement, on en parle de temps en temps, dépassé ce qu'était le chalet, même si patrimonialement il reste présent, et qu'aujourd'hui il y a d'énormes potentialités de positionnement du bois sur des reconstructions, par exemple. Et puis, d'accord. Un gros ensemble qui a été primé à proximité d'Annecy, qui est sur un autre aspect de la filière bois, tout l'aspect culturel de bâtiments dans lesquels on est capable de créer, là encore, des lieux de vie, dans lesquels le bois n'est pas seulement des éléments structurels, mais c'est des éléments de confort, c'est des éléments d'architecture, d'esthétique. Ça va jusqu'à l'isolation, bien évidemment, mais on a ces potentialités. Et là, je vais balayer par quelques images d'ensemble pour montrer à quel niveau, quand même, on est capable d'aller aujourd'hui. Et là encore, les architectes font un travail véritablement d'analyse de la volumétrie potentielle. Mais l'ingénieur suit, les entreprises suivent. Donc, on est sur des potentialités économiques fortes. Et puis, je ne peux pas terminer sur un propos comme celui-ci sans faire quelques lignes sur ce qui a été un moteur extraordinaire, peut-être folie, mais de dire qu'avec le bois, on était capable d'aller à l'extrême. Et on a été toute une équipe à aller grimper un bâtiment de 400 et quelques mètres carrés, 400 mètres cubes de bois, sur les pentes du Mont Blanc. Bâtiment qui a souvent défrayé la chronique, mais là aussi l'équipe de Thomas Buchy a permis de montrer ce que pouvait être un ouvrage de cette nature. Ce qui est d'autant plus interpellant et important, c'est qu'il a été entièrement fait en bois, avec une peau extérieure qui ne pouvait pas être en bois compte tenu du site, mais entièrement en bois, mais avec déjà un préalable de l'approvisionnement. Et on a été très loin à cette époque, puisque ce bois, il a été prélevé sous contrôle de l'équipe en forêt et que les prélèvements ont été faits de façon tout à fait mesurée et que les enfants des écoles ont replanté les arbres que nous avions consommés pour faire ce bâtiment. Donc on a une pédagogie à Mont-Aval qui a donné lieu à ces bâtiments de fous, mais qui fonctionnent et qui ont été des démarches technologiques. Dernier point sur des ouvrages de cette nature, c'est qu'on est capable de faire avec la filière bois des bâtiments totalement autonomes. Ce bâtiment, il est dans un secteur à 4000 mètres d'altitude où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, et que si on loge 120 passagers tous les jours, visiteurs tous les jours, eh bien, il faut aussi traiter les effluents, il faut traiter la totalité. Donc on est sur des démarches dans lesquelles la filière bois, vous voyez, c'est très au-delà de simplement faire une structure en bois. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute.